Guermann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 14 mai 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine sur les marchés?
Bien, on a eu la semaine passée plusieurs résultats financiers là, de titres que nos clients détiennent en portefeuille. En général, les résultats financiers sont plutôt bons. Évidemment, quand les résultats financiers sont bons, en général, les actions performent également. Donc, plusieurs titres ont fait des nouveaux sommets. Entre autres, même aujourd'hui encore, la Banque Royale atteint un nouveau sommet. Brookfield Corp aussi atteint un nouveau sommet de l'année. Donc, des titres là, qui sont largement détenus par nos clients. Ce matin, on a eu des chiffres sur reliés à l'inflation, là, Consumer Personal Expenditure, donc les dépenses de consommation, qui est un indice un petit peu différent de l'indice des prix à la consommation, mais ça se rejoint. C'est un indicateur que la Réserve fédérale surveille beaucoup. Le chiffre est sorti plus haut que prévu, donc ça a eu un impact un petit peu sur les taux d'intérêt. Surtout en début de journée, les marchés étaient à la baisse. Par contre, sur la fin de la journée, ben, les marchés ont terminé en territoire positif. Là, le Nasdaq en hausse de 122 points, le S&P 500 en hausse de 25 points aujourd'hui. Donc, malgré un chiffre d'inflation un petit peu coup-ci, coup-ça, disons, les marchés ont bien réagi. Donc, cette semaine, les bourses américaines sont en hausse de 1 %. Par contre, au Canada, légère baisse de 0,3, entre autres le secteur de l'énergie, les titres d'énergie qui ont rebaissé un peu. Là, on sait que c'est un secteur quand même pesant dans l'indice. Autrement, les taux d'intérêt, ben, on l'a mentionné aujourd'hui, les taux ont monté légèrement. Au Canada, on est quand même 0,1 de plus que la semaine passée, mais on demeure 0,1 de moins qu'au début du mois. Donc, on se trouve à mi-chemin. Aux États-Unis, les 10 ans américains ont simplement pas bougé. Là, on est au même niveau. Le dollar canadien s'est légèrement raffermi. Hein? On a dit les taux n'ont pas bougé aux États-Unis. On remonte un peu au Canada. Et oui, notre dollar canadien performe à la hausse. Et le pétrole, légère hausse, là, 78,45 le baril, comparativement à 77,60 la semaine dernière. Nouveau phénomène, on en a parlé il y a peut-être quoi, 3 ans, 2 ans, là, les fameux meme stocks, ces actions très spéculatives qui émergent de Reddit. Donc des titres là, qui explosent à la hausse sans aucune justification de 100%. Ça sent un peu l'euphorie spéculative. C'est pas des bons signes là, quand on voit ce genre de trucs-là se passer à la bourse. Ça peut être divertissant, là, mais c'est certainement pas des choses auxquelles on devrait se mêler. On le regarde de loin, puis on le regarde plus avec inquiétude qu'amusement, je vous dirais.
C'est ça. Il faut se retenir et pas avoir, comme on dit en anglais, le faux mot « fear of missing out », la peur de manquer. Ouais. Ben, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, on va parler liquidateur. Donc, il y a 3 types de testaments reconnus au Québec. Donc, on se fait poser la question des fois par les clients. Il y a le testament notarié, holographe et devant témoin. Un testament notarié est reçu devant un notaire et l'original est conservé par le notaire comme le nom l'indique. Il fait l'objet d'une publication auprès du registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires. Un testament holographe, les gens connaissent souvent celui-là, est écrit et signé par la main par le testateur sans témoin. Il y en a qui mettent des témoins des fois.
C'est-à-dire qu'il faut que le texte au complet soit écrit à la main par le testateur et signé à la main.
Oui, bon point. Un testament devant témoin est écrit par le testateur ou par une tierce personne et signé par le testateur en présence de 2 témoins qui signent également.
Ouais.
Peu importe la façon qu'on choisit de faire notre testament, il y a un choix à faire. Il faut qu'on choisisse notre liquidateur. Nous voulons regarder aujourd'hui qu'est-ce que cela veut dire être liquidateur? Quelles sont les responsabilités du liquidateur? C'est un sujet qu'on a déjà exploré, mais qui vaut la peine d'être revu. Comment le choisir et aussi comment simplifier la vie du liquidateur, ouais. Surtout. Même si on n'est pas là, souvent on aime la personne qui est notre liquidateur et on veut leur rendre la vie plus facile. Ce balado aujourd'hui est tiré d'un document, un excellent document à l'interne qui a été fait par notre équipe marketing. C'est vraiment un document tout ce qui a trait à la liquidation, la succession et préserver l'harmonie familiale. Donc, si vous voulez une copie, on peut le partager avec vous. On dit on n'est pas notaire, tu es planificateur financier, donc on regarde les grandes lignes, mais pour tous les sujets qui sont spécifiques à chacun, faites-nous signe. Donc, premièrement, Martin, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce qu'un liquidateur et quelles sont ses responsabilités?
Donc, anciennement, avant 1994, on parlait de l'exécuteur testamentaire. Donc, le liquidateur, c'est maintenant le terme qui désigne ce qui était anciennement l'exécuteur testamentaire. C'est la personne physique ou morale qui exerce la saisine des héritiers et des légataires pendant la période nécessaire à la liquidation d'une succession. En disant ça, j'ai l'impression de ne pas avoir aidé beaucoup à comprendre c'est quoi un liquidateur. Donc, globalement, le rôle du liquidateur, ça consiste à gérer la succession et à prendre toutes les décisions. Il doit faire respecter les volontés du défunt et non pas des héritiers. Donc, c'est vraiment là, la personne en charge de gérer les actifs du défunt et d'exécuter ses volontés après le décès.
Ben, puis c'est une lourde tâche être liquidateur, hein? Puis ça peut prendre temps, ça peut prendre énergie et c'est beaucoup d'émotions surtout. Et souvent, on est en deuil aussi de notre côté comme liquidateur. Donc, comment est-ce qu'on peut simplifier la vie de notre liquidateur? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut donner à nos clients pour simplifier la vie de leur liquidateur?
Premièrement, faire un testament. Donc, oui. Ça, c'est clair que si on ne laisse pas nos souhaits au liquidateur, ça va être bien difficile au liquidateur d'essayer de faire plaisir à tout le monde sans trop savoir qu'est-ce que le défunt souhaitait. On devrait idéalement aussi rapatrier ses placements.
Donc puis ça, c'est un bon point, Martin. C'est qu'on devrait les rapatrier. Souvent, on a des clients qui se disent... Ben j'aime ça, pas avoir tous mes œufs dans le même panier, mais ça, c'est pas un cadeau pour un liquidateur. Ouais,
de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on fait référence à avoir une diversification.
Ouais.
D'avoir des placements dans 8 institutions financières, on appelle ça être éparpillé.
Ouais.
Et ça l'aide pas le liquidateur, puis qui devra communiquer avec plusieurs institutions financières, ouvrir des comptes de succession un peu partout, donner les copies des documents un peu partout. Certaines institutions, il y a un peu plus de services que d'autres. Si on a des affaires, par exemple, avec un courtier escompte, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas une personne contact régulièrement. Si on a des certificats d'action d'entreprise détenue auprès de l'agent de transfert, c'est compliqué aussi. C'est des institutions, ça se liquide, là, c'est correct, c'est juste... plus lourd et plus compliqué pour le liquidateur. Donc, si on veut faire une petite faveur à ses proches, ramassons les trucs à une ou deux institutions financières, ça va grandement faciliter la vie du liquidateur. Si on veut faciliter la vie du liquidateur, on peut demander aux héritiers d'éviter de faire de la pression sur le liquidateur. Le liquidateur a une tâche à accomplir. Puis cette tâche-là ne peut pas être abrégée. Puis on comprend des fois qu'il y a des héritiers qui peuvent avoir des besoins financiers, qui peuvent avoir le goût de finalement avoir les moyens de s'acheter le truc qui attendait, le chalet qui attendait, la voiture de sport qui attendait. Mais le liquidateur a une tâche à terminer, puis les biens ne peuvent pas être distribués avant que cette tâche-là soit terminée.
Et un truc que j'ai eu de certains clients, ils ont écrit, leur relation a écrit sur le testament, ne vous chicanez pas. Donc, vraiment des petites notes écrites du défunt, ça peut inciter les gens à rester calme.
Rappeler aux héritiers que le but, c'est de préserver l'harmonie familiale, puis de ne pas chicaner pour quelques dollars de
plus. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon truc, ça.
Puis ça coûte juste un post-it, en fait. Ça coûte pas cher. Garder un bilan à jour. Donc, c'est une bonne pratique, peut-être, d'avoir sur un document, peut-être qu'on met en annexe de la copie de testament qu'on a à la maison, qu'est-ce qu'on a comme truc, sont où mes placements, dans quelle institution j'ai des affaires, c'est quoi le numéro de téléphone, c'est quoi mon numéro de compte, j'ai-tu un coffret de sûreté quelque part, la clé est là. Donc, faire un bilan, un inventaire de ses propres biens. Il ne faut pas oublier là-dedans de faire un peu l'inventaire aussi de ses mots de passe.
Oui, donc, bon point. Donc,
garder en tête que la personne qui décède a peut-être un compte Facebook, a peut-être des points SRQ Inspire. Donc, il peut y avoir toutes sortes de comptes en ligne avec différents mots de passe, avec des valeurs un peu partout, tu sais, les bonnies dollars sur la Visa Desjardins, par exemple. Donc, c'est important que le liquidateur sache que ces trucs-là existent puis puisse avoir accès au compte.
Donc, je te promets, Martin, je ne vais pas perdre tes bonnies dollars à la SAQ. Ce n'est pas tes bonnies dollars, c'est tes points Inspire. Oui, c'est ça. Tu es très attaché à ces points-là. Mais l'autre chose, c'est qu'on a un document aussi qui peut aider à l'interne. On a un document qu'on peut partager avec les clients pour aider à faire l'inventaire.
Ce serait une bonne idée aussi de faire la liste des professionnels. Donc, le liquidateur, s'il ne sait pas c'est qui votre comptable, il n'a jamais entendu parler de votre conseiller en placement, votre représentant en assurance, ça va être difficile pour lui. Il va falloir qu'il fasse toutes sortes de recherches, puis même des fois qu'il attende que du courrier rentre pour découvrir que, gadon, il y a un compte à telle institution financière que je ne savais pas. Donc, toujours avec le bilan, faire la liste de tous les professionnels, notaires, comptables, avocats, peu importe, auquel le liquidateur pourrait se référer en cas de besoin. Et évidemment, s'entourer de bons professionnels. Donc, il faut laisser un petit peu la porte ouverte au liquidateur que s'il sent le besoin, tu sais, de payer des frais pour un comptable dûment qualifié pour faire une job comme du monde, ben c'est correct, il faut faire ça. Il faut s'entourer de gens compétents et qualifiés pour faire le travail. Donc, le liquidateur... C'est le chef d'orchestre de la liquidation, mais il ne peut pas le faire tout seul. Il n'a souvent pas les connaissances techniques de tout faire. Donc, il a la capacité de s'entourer de professionnels. Puis si en plus le défunt lui a référé ses propres professionnels qui connaissent déjà ses affaires, ça peut faciliter grandement la vie du liquidateur.
Absolument. Puis nous, on peut être un de ces professionnels hein, pour assister les liquidateurs avec l'information qu'on a, avec l'expérience qu'on a, avec les successions qu'on a aidé à régler.
Exact.
Le choix d'un liquidateur n'est pas facile.
Non.
Et c'est surtout pas un cadeau. Je pense qu'on l'a déjà dit sur notre balado. Et c'est pas un droit d'aînesse. Donc, on ne le donne pas aux plus aînés, on le donne à la bonne personne, je crois. Ouais. Un liquidateur se trouve aussi avoir beaucoup de pouvoir et le choix n'est pas facile. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour s'aider à choisir le liquidateur?
Bien, je pense que l'important, c'est bien de communiquer, mais dans des situations où on peut avoir un peu un casse-tête difficile, une dynamique familiale qui peut être complexe avec un conjoint de deuxième, troisième union, des conflits familiaux, donc des fois c'est difficile si, mettons, le frère et la sœur, ils s'entendent pas bien, ben, lequel choisit, on est sûr de faire des mécontents là-dedans. On a des héritiers qui ont des problèmes de dépendance ou des difficultés financières, donc ça va compliquer pas mal la vie des actifs à l'étranger ou un proche qui n'est pas résident fiscal canadien. Ben, on ne veut pas le nommer comme liquidateur, là. Ça a une implication fiscale qui peut être difficile à gérer. Puis l'absence ou l'indisponibilité de proches parents ou d'une personne de confiance. Donc ça, c'est un peu les défis de comment je fais pour trouver un liquidateur. Donc la personne de confiance qui a un peu d'organisation puis de compétences, mais on n'a pas besoin d'être CPA, MBA, CFA puis d'avoir toutes les lettres pour liquider une succession. Le liquidateur va s'entourer des bons professionnels pour accomplir la tâche. Mais il faut savoir aussi qu'on peut, dans le doute, si on n'a personne, on peut nommer un liquidateur corporatif. Ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est le coût. Ce n'est pas gratuit, c'est quand même un service qui peut paraître dispendieux. Par contre, ça a le grand avantage d'être un liquidateur complètement neutre et indépendant face à la famille. Donc, si on sent qu'il pourrait y avoir des conflits familiaux, des fois de payer, en fait, puis c'est les héritiers qui payent finalement, parce que la succession qui va payer le liquidateur corporatif, il en restera moins à la succession, mais si ça peut éviter des chicanes de famille, peut-être que c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. On va être sûr aussi que ça va être fait, là, comme on dit, ça coche, là, tu sais, ça va être fait. Toutes les étapes vont être parfaitement bien suivies, bien exécutées, puis on n'aura pas de surprise à la fin, ça va être bien exécuté. Donc, je pense que l'important, c'est entre autres, de communiquer. Je pense que si on peut suggérer une chose, Si vous avez identifié votre liquidateur, ce serait une bonne idée de discuter avec cette personne-là, de les mettre au parfum de votre situation, de qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous souhaitez, parce qu'on peut l'écrire dans un document, mais de l'expliquer de vive voix, ça peut faciliter aussi la compréhension du testament. Si le liquidateur connaît déjà un peu où sont les trucs, les placements, les polices d'assurance, ça va grandement l'aider. Ça peut peut-être préparer le liquidateur à mettre un peu la table, là, si on sent un peu la soupe chaude. Peut-être ça permet de, tu sais, en amont, de préparer les héritiers à ce qui pourrait se passer dans le testament, puis éviter des chicanes.
Ben, puis on a déjà eu des discussions avec certains clients qui l'ont même pratiqué avec le parent, de dire, OK, jour 1, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de liquidation de succession? On l'a déjà fait, on le refait aujourd'hui. On a aussi déjà eu un de nos collègues qui travaille pour la Fiducie Desjardins sur notre balado dans des épisodes passés pour parler des services d'un liquidateur corporatif. Fait que peut-être tu peux nous parler du processus.
Ouais. Donc rapidement, là, liquider une succession, ça peut prendre entre 18 et 30 mois. Là, aux alentours de 2 ans, habituellement, c'est à peu près la durée. La première étape, ben, c'est de trouver le testament puis de le faire vérifier le cas échéant. Donc, de faire les recherches auprès de la Chambre des notaires et du barreau. On doit publier le nom du liquidateur au RDPRM et communiquer avec les successibles, donc avec les héritiers, ceux qui sont susceptibles d'hériter de la succession. On doit ouvrir un compte de succession. Donc, la succession, c'est une personne morale, donc elle doit avoir son propre compte de banque. Il y aura des factures à payer, il y aura des sommes à recevoir. Donc, on doit avoir un compte de banque. On doit ensuite repérer, protéger, inventorier et évaluer les biens et les gérer. D'où le bilan qu'on suggère de faire. Ça va grandement aider cette étape-là de repérer et de protéger et inventorier les différents biens. On doit faire suivre le courrier, annuler les baux, les abonnements. Donc, tu sais, je reçois mon abonnement de la presse, Le Devoir, Spotify, tout ça, Netflix, il faut tout annuler ça. Je dois faire l'inventaire successoral et publier la clôture. Ensuite, on doit obtenir le certificat de décharge et de distribution. Donc, une fois que les impôts sont faits, là, on veut obtenir, si on veut, l'aval des gouvernements à l'effet que toutes les dettes sont réglées, que les impôts sont réglés. Donc, on a vendu les biens, on a payé les dettes, on a payé les impôts, on a distribué les legs, on a produit les dernières déclarations de revenus et ensuite, on fait la reddition des comptes et la remise finale des biens aux héritiers. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'étapes, mais c'est pas une après l'autre. Il y a plusieurs étapes qui se chevauchent une par-dessus l'autre. Donc, il y a des étapes qui ont lieu en même temps l'une que l'autre, mais c'est quand même une tâche. Là, tu disais, c'est pas un cadeau. Donc, tu sais, on fait pas une faveur à quelqu'un de le nommer liquidateur. C'est une tâche qui est lourde et importante. Donc, de prendre le temps de choisir la bonne personne qui est calme, qui est organisée, tu sais, la personne qui est toujours en retard, qui a oublié de 3-4 affaires, c'est peut-être pas le meilleur choix, mettons. Là. Ça prend quelqu'un qui a quand même un bon niveau d'organisation, surtout.
Et puis nous, on vous rappelle que chez Valeur Mobilier en Desjardins, on a accès à des notaires. Hein? Puis une des parties de qu'est-ce que les notaires chez nous peuvent faire et aider nos clients, c'est vraiment, ils sont là pour l'aide à la réflexion. Donc si on veut réécrire notre testament ou écrire notre premier testament au mandat de protection. Et puis ils sont là et ils aident beaucoup pour avoir assisté à ces rencontres-là, à réfléchir à c'est qui la meilleure personne qui peut être notre liquidateur. Donc, c'est une rencontre d'une heure et demie, 2 heures avec nos notaires et à la fin, on reçoit un document sommaire qui parle de tous les éléments qu'on a discutés durant la rencontre et un de ces éléments-là, c'est le liquidateur. Donc, on est définitivement là et présent et disponible pour vous assister avec cette réflexion-là. Merci beaucoup, Martin. Je pense qu'on pourrait en parler toute la soirée. Il y a tellement de points à discuter. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado, communiquez avec nous. Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.